Good Morning Business, le grand entretien.
Il est 7h44 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité ce matin, c'est Lucas Lebel. Bonjour, vous êtes le cofondateur et directeur général de Cerber. Cerber qui développe des solutions de lutte anti drones. Vous êtes spécialisé dans le traitement et l'analyse du spectre radiofréquence. On parlera technique évidemment dans l'interview, mais vous m'avez dit il y a quelques instants pendant la publicité, ce qu'on voit aujourd'hui avec le drone, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé avec la poudre noire sur le champ de bataille. C'est une révolution fondamentale dans la manière de se battre.
Absolument. Ce qu'on observe, c'est un bouleversement complet technologique de la manière de conduire la guerre en réalité. Avec l'introduction derrière le drone, en réalité, c'est la robotisation du champ de bataille qui se joue, avec l'introduction de machines capables d'intelligence, mais aussi pilotées à distance par des opérateurs qui parfois sont à des milliers de kilomètres et qui peuvent porter le feu, porter l'action de tuer, en prenant des risques beaucoup plus importants, puisque finalement l'enjeu, c'est de perdre quelques machines qui, pour certaines, peuvent coûter quelques centaines de dollars. En face, vous avez des vies humaines et donc avec des niveaux d'efficacité redoutables. Et ça bouleverse tous les équilibres, que ce soit à un niveau industriel, à un niveau doctrinal, et puis même au niveau géopolitique dans les rapports de force entre les nations.
Avec un coût qui, du coup, a baissé de manière phénoménale.
Avec un coût qui s'est écrasé. Aujourd'hui, vous avez des drones qui sont produits par millions à l'année, par des pays qui ne sont même pas forcément de rang international, comme peuvent l'être, par exemple, les États-Unis ou la Chine. Prenez l'Ukraine, par exemple. La production, c'est des millions d'unités à l'année. Et ces drones-là, ils sont envoyés sur la ligne de front, ils sont consommés par milliers d'unités par jour, produits pour un coût unitaire de l'ordre d'à peu près 200 dollars pour certains, et qui sont capables d'aller derrière frapper des positions, responsables de plus de 80% des pertes humaines et matérielles sur le champ de bataille. Le coût aujourd'hui humain, enfin, en tout cas le coût pour porter l'action de tuer un soldat ennemi, a aujourd'hui été chiffré par l'Ukraine autour de 1000 dollars. Donc c'est dramatique, ça donne le vertige. Et nous, notre mission, pour revenir à Cerber, c'est de protéger l'humain, c'est de protéger les infrastructures contre ces attaques. Voilà, une noble mission de protection.
Donc votre travail à vous, donc, c'est la lutte contre ces drones. Vous ne fabriquez pas de drones, vous travaillez dans la lutte anti-drone. Avec l'analyse du spectre radiofréquence, vous nous rappelez comment ça fonctionne ?
Bien sûr. Nous, notre métier, c'est d'empêcher ces attaques. Pour ce faire, on déploie en fait des moyens technologiques qui vont être capables de détecter toutes les communications radiofréquences dont les drones ont besoin. Pour opérer un drone, vous avez besoin de lui envoyer des informations de vol. Vous avez besoin de récupérer en temps réel un flux vidéo pour corriger le plan, pour désigner une cible, pour donner des coordonnées, pour faire tout un tas de choses. Et donc, ces communications radiofréquences constituent le talon d'Achille que nos solutions viennent exploiter. Parce que ces communications, elles se propagent à la vitesse de la lumière. Nous, on est capable de les intercepter. Derrière, de regarder à l'intérieur, dans certains cas de figure, le contenu, ou simplement, d'un point de vue physique, de remonter à la source du signal pour être capable de déterminer la localisation de l'émetteur à l'endroit du pilote, ça peut être très intéressant, ou de la machine au niveau du drone. Et derrière, dans la foulée, parce qu'au-delà de la détection, on a aussi de la neutralisation de drone, qui crée en fait une interférence électromagnétique capable en fait de repousser le drone, de le forcer à atterrir, voire de le faire tomber. Donc en fait, c'est un dôme invisible que l'on vient poser au-dessus de ce que l'on cherche à protéger, qui porte à plusieurs kilomètres et qui est redoutablement efficace.
Et est-ce que vous pouvez aussi emmener le drone ailleurs, lui changer sa trajectoire, tout ça c'est possible ?
Tout ça c'est possible. Maintenant, le déployer de façon efficace sur toute la diversité que les drones recouvrent, c'est pas réaliste. Donc oui, on sait le faire dans une certaine mesure.
Parce qu'on a vu des drones ukrainiens là arriver en Lituanie, peut-être envoyés par des Russes qui auraient dévié des trajectoires.
Oui, alors bon, là on rentre dans un sujet un petit peu plus technique. Prendre le contrôle sur le drone pour lui imposer complètement sa volonté et l'emmener où on veut, de façon réaliste, en particulier sur les drones militaires, aujourd'hui c'est pas répandu. C'est trop compliqué et puis vous pouvez passer des années à développer ça pour être envoyé à la case départ au prochain patch logiciel qui est produit. Par le brouillage, en fait, vous allez interférer avec les communications radiofréquences et notamment avec la réception des signaux de localisation, le GPS, etc., qui peut du coup provoquer parfois la dérive de la trajectoire de certains drones et parfois une perte de contrôle, avec certains cas de figure qui ont été observés dans certains pays scandinaves ou baltes, où il y a eu effectivement des drones brouillés ou qui ont été ce qu'on appelle leurrés, et qui du coup ont dévié de leur trajectoire et qui derrière ont atterri ou se sont crashés plutôt à des endroits qui n'étaient pas souhaités.
Mais quand vous regardez aujourd'hui les dépenses militaires d'un pays comme la France, au vu de ce que vous nous dites sur l'intérêt des drones, alors il y a une rallonge là qui a été votée pour les drones, mais on se demande à quoi ça sert d'investir des milliards et des milliards dans de l'industrie lourde. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un décalage aujourd'hui sur ce qu'on vote comme crédit, sur la stratégie militaire et en fait ce que devient aujourd'hui la guerre moderne et technologique ?
C'est une très bonne question, merci. Nous, on a une conviction très forte quant au fait que, certes, le drone amène une révolution fondamentale. Maintenant, il ne faut pas tomber, de notre point de vue, dans le piège qui consisterait à enterrer trop rapidement des technologies de pointe, de la high-tech, qui, jusqu'à récemment, constituait vraiment voilà, le squelette des armées, que ce soit au niveau des hélicoptères, des porte-avions, des chars, etc. Il ne faut pas les enterrer. Ils ont une place dans le champ de bataille, encore aujourd'hui, ils la conserveront demain. Demain, enfin aujourd'hui et demain, les conflits ont besoin de juxtaposer, vraiment, de réussir à conjuguer et du high-tech et du low-tech. Vous avez besoin des deux. Il ne faut pas croire que en fait, le drone va tout faire. Le drone, il peut venir frapper, il peut apporter une transparence sur le champ de bataille, il peut renseigner, mais derrière, pour exploiter, pour frapper avec précision, pour occuper le terrain, pour prendre une ville, pour venir la sécuriser, pour tenir un pont, vous avez besoin derrière d'infanterie, vous avez besoin de les protéger avec du blindage, vous avez besoin de transport, vous avez besoin, on l'a vu par exemple dans le conflit iranien, en tout cas dans les premières opérations. Au début, pour venir nettoyer quelque part toutes les défenses solaires, vous avez besoin d'une armée de l'air puissante, avec des moyens de guerre électronique, capable de frapper les radars. Donc, vous avez besoin des deux. Et donc, dans la feuille de route budgétaire française, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait réussi, de ne pas effacer toute la direction qui a été impulsée sur du temps long, quelque part, le porte-avions, nouvelle génération, tous ces programmes-là, mais de venir amener aussi rapidement des dépenses sur les drones. Dans notre industrie, les drones intercepteurs, peu coûteux, qui aujourd'hui ont toute leur place dans les dispositifs de défense.
Les députés, ils ont autorisé des acteurs privés dans la lutte anti-drones. C'est votre cas à vous. Vous êtes un acteur privé avec cette question derrière. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas si important, si fondamental dans la défense? Est-ce que la lutte anti-drone doit être opérée par des acteurs privés? Ou est-ce qu'il faut qu'en fait, ça soit une activité de l'armée et intégrée comme ça uniquement?
Alors, le régulateur français a tranché cette question et continue de passer les changements nécessaires. Et je l'en félicite. Je pense que c'est tout à fait pragmatique de réagir de la sorte. Je pense que donc, l'État français, mais comme tous les États, réalise qu'en réalité, les forces de police, de gendarmerie et des armées sont aujourd'hui submergées par cette menace drone, qui, à la différence de menaces un peu plus conventionnelles, est absolument omniprésente, peut surgir de n'importe où, frapper n'importe quel site. En France, vous avez 1500 PIV, on appelle ça des points d'importance vitale, ouais, qui sont absolument cruciaux pour le fonctionnement en fait, de notre économie, de nos sociétés. On parle des sites de retraitement des eaux usées, on parle des opérateurs télécoms, on parle des sites qui créent de l'énergie, des centrales nucléaires, des nœuds ferroviaires. Tous ces endroits, ils sont absolument critiques.
Et là, on a besoin du privé.
Et aujourd'hui, le régulateur a dit, d'accord, on va ouvrir en fait le droit, ce qui n'était pas le cas avant, aux opérateurs de sécurité privés qui travaillent à la sécurité de ces sites d'importance vitale, à déployer des moyens de lutte anti-drone, bien sûr avec des règles, bien sûr avec des habilitations, avec des matériels homologués. Ça ne va pas devenir le Far West, il ne faut surtout pas que ça le devienne. Mais il y a besoin d'une coopération publique-privée pour aujourd'hui amener la sécurité à un niveau nécessaire.
Il nous reste quelques secondes, donc je le disais en introduction, vous avez augmenté votre chiffre d'affaires de 40% en 2025, vous dépassez les 10 milliards d'euros, vous êtes
des millions,
j'ai expliqué qu'on s'embrouille entre les milliards et les millions, mais justement, est-ce qu'avec une hypercroissance telle que la vôtre, vous pouvez rester une start-up ou est-ce qu'il faut désormais changer d'échelle, vous associer avec d'autres, trouver des nouveaux financements, est-ce que vous avez des marques d'intérêt, vous en êtes où?
Alors, donc effectivement, on a eu une belle croissance en 2025. En 2026, regardez, on est à peine à la fin du mois de mai. On a déjà, donc en l'espace de 5 mois, doublé le chiffre d'affaires par rapport à la totalité du chiffre d'affaires 2025. Ce qui donne une idée de l'ampleur de l'accélération de la demande internationale avec tout ce réarmement qui s'opère littéralement partout dans le monde. Donc, pour répondre maintenant à votre question, on veut accélérer très vite, très fort. Il y a énormément de choses à faire, tant d'un point de vue technologique que commercial. On est en train de se faire accompagner et on aura une très grande annonce à présenter au marché à l'occasion du grand salon Eurosatory qui aura lieu à la mi-juin.
Et on sera là pour votre annonce à Eurosatory à la mi-juin. Je crois de mémoire que c'est le 14 juin que BFM Business y sera en direct. Merci beaucoup Lucas Lebel d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.